Code Philosophie Première de Bernard Dominique Philippe, le 9 décembre 1999, à Saint-Jolain.
Nous étions restés la dernière fois, si vous vous souvenez. Vous avez 8 jours pour y penser. Donc, ça doit être très frais maintenant, ou très chaud. L'induction de la substance. Voyez, au fond, l'induction est quand même un procédé typiquement aristotélicien. Donc, c'est là où notre intelligence doit devenir, doit entrer dans son domaine propre d'intelligence. Saisir ce qui est en tant qu'il est. L'être. Nous étions arrivés par 2 procédés différents, procédés objectifs par les catégories, à voir que si je cherche ce qu'il y a de premier dans la détermination de ce qui est en tant qu'il est, nous aboutissons à ces 2 substances. Au niveau des catégories, donc au niveau de l'attribution, nous étions arrivés au niveau du langage, nous étions arrivés à cette position substance première, substance seconde. Et quelque chose de très important de voir substance première, pierre, substance seconde, homme. Donc on aboutit à ces 2 substances. Si elles sont 2, c'est ni l'une ni l'autre qui sont premières, puisque elles sont relatives l'une à l'autre. Substance première, c'est le sujet, substance seconde, c'est l'attribut. Donc elles se renvoient la balle. Je vois donc que ni l'une ni l'autre ne peut être première. C'est la première constatation qu'on doit faire. Au niveau de l'être, Pierre a quelque chose d'irréductible, c'est qu'il existe avec son autonomie. Il est. Et il est tellement bien, tellement parfait, tellement premier, que c'est lui qui reçoit toutes les attributions. Pierre est intelligent, Pierre mesure 1m10, j'ai sûr de ne pas le trouver, et ainsi de suite, ou 2 mètres. Pierre pèse tant. Pierre a beaucoup de relations, ainsi de suite. Pierre se tient de telle manière, il a une chevelure particulière, et comme les lions d'Asie et les lions de l'Inde, si la chevelure n'est pas la même, et ça fait 2 espèces différentes. C'est la physionomie, tout ça c'est Pierre. C'est Pierre ou le lion, ou le crapaud. C'est vrai, Pierre a quelque chose d'unique qui ne se retrouve plus dans homme, qu'il ne se trouve pas dans homme. Homme a quelque chose de premier par rapport à Pierre. C'est qu'il explicite le caractère propre de Pierre, sa spécification. Pierre est capable de rire. C'est encore sa spécification. Et ça le distingue de tous les autres animaux qui sont autour de lui, incapables de rire. Faites rire le serpent. Non. Le serpent n'aime pas de rire, parce que ça fait perdre du temps. Il aime mieux attaquer. Et il attaque directement. Rire, c'est perdre du temps. Le sage n'aime pas de rire, incapable. Et donc, quand on rit en face de lui, il sent son infériorité. Et alors, pour lui, l'homme est l'ennemi supérieur. Il rit. Et ainsi de suite. Donc, il y a dans homme quelque chose d'explicité par rapport à Pierre qui fait que c'est l'intelligibilité qui dépasse. De l'autre côté, c'est l'existence. Donc, j'arrive à cette position que je vois deux aspects dans l'être qui sont premiers, l'un du côté existentiel, l'autre du côté intelligible. Ce qu'il y a de plus intelligible dans Pierre, c'est homme. Ce qu'il y a de plus existentiel dans Pierre, c'est ce qu'il est dans son autonomie. C'est très curieux, vous voyez, on aboutit par les prédicaments à cette dualité à l'intérieur de l'être. Est-ce que cette dualité peut être dépassée? Ou est-ce que cette dualité demeure? Si cette dualité demeure, je suis donc en face d'une dualité et je n'ai pas découvert ce qui est premier dans l'être. Alors, comprenons bien l'interrogation, parce que dans l'induction, ce qui est capital, c'est l'interrogation. Et alors là, je ne vais pas faire un petit traité sur l'interrogation, mais ayez-vous le courage d'avoir un petit dossier sur l'interrogation. Ça vaut la peine. Chaque fois que vous voyez qu'un philosophe parle sur l'interrogation, notez, qu'est-ce que c'est que l'interrogation pour lui? Parce que c'est l'interrogation qui a disparu dans la scolastique. Il n'y a plus d'interrogation. Et quand on n'interroge plus, on n'avance plus. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas d'interroger. On ne peut pas interroger. Au début, je laissais les étudiants interroger tout de suite. C'était intéressant parce que c'était très chaud. Mais en même temps, on n'avance pas. Alors il faut que le cours puisse avancer. Et pour ça, c'est le bien commun qu'on avance, qu'on voit la matière. Et donc, vous ne pouvez pas interroger tout de suite. Mais si vous, une interrogation pousse chez vous, parce que ça pousse une interrogation, c'est comme une asperge. Ça pousse tout droit. Si l'interrogation pousse chez vous, notez-la. Vous la notez. Tout de suite, quand c'est chaud. Parce qu'il suffit, vous pouvez avoir une interrogation dans le dialogue que nous avons, et c'est grâce à ce fait que vous notez les interrogations que le dialogue existe. Même si vous ne parlez pas, le dialogue existe. Tandis que si au fond, après le coup, oh, tiens, qu'est-ce qu'il y avait je... Ah, je ne sais plus du tout. Puis alors, au bout de 5 minutes, il y a autre chose, la cloche sonne, on doit aller prier. Donc, laissons l'interrogation tranquille, puis on a complètement perdu. Et on n'avance pas. Chaque fois que vous éteignez l'éteignoir, celui qui éteint les bougies, il ne fait pas avancer la lumière. Il éteint. Chaque fois que vous éteignez une interrogation, il y a un refoulement. Il y a des refoulements intellectuels. Ce n'est pas nouveau les refoulements, c'est très vieux. Celui qui ne veut pas noter son interrogation pour avoir la réponse, et là, il refoule. Le refoulement intellectuel est pire que tout le reste. Nous, on ne parle que des refoulements affectifs. Mais l'affectivité, c'est second, ce n'est pas premier. Ce n'est pas ça qui structure. Il y a des refoulements intellectuels. Ça, seule la philosophie peut découvrir les refoulements intellectuels. Il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes quand même premièrement des êtres intelligents. Du moins, je l'espère. En premier lieu, des êtres intelligents qui ont besoin que l'intelligence pousse. Et l'interrogation, c'est la vie de l'intelligence. Vous interrogez quand votre intelligence, elle, connaît quelque chose, et en même temps, il y a une obscurité. On n'interroge pas quand on est dans la totale ignorance. On interroge quand on est en devenir et quand on est en recherche, il faut être en recherche pour interroger. Et l'interrogation, c'est le sommet de la recherche. C'est pour ça que c'est ce qui pointe. Si on veut avoir un esprit pointu, il découvre tout de suite ce qui est intéressant, c'est l'interrogation. C'est très curieux, ça, tu restes, c'est très intéressant à voir. Et si on voulait, vous voyez, on le fait pas, hein, mais si on voulait, on dirait, signez vos interrogations. Alors il y aurait les interrogations de tel frère. Et au bout de l'année, on dirait, voyez, voilà, je vais faire la psychologie de votre intelligence, hein, par vos interrogations. Voilà, qu'est-ce qui vous inquiète? C'est ça. Il y a des interrogations qui portent sur les choses secondaires. Et il y a des interrogations qui portent sur l'essentiel. Et qui veulent porter sur l'essentiel. Alors, réfléchissez sur l'interrogation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'interrogation a repris cours dans beaucoup de recherches philosophiques aujourd'hui. Et quelqu'un comme Merleau-Ponty, même si il y a des tas de choses qui sont complètement à côté dans les conclusions, c'était l'homme de l'interrogation. Il a remis très en lumière l'interrogation. Tellement fort que pour lui, quand il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de philosophie. Donc quand il n'y a plus d'interrogation, il n'y a plus de philosophie. On vit par l'interrogation. L'interrogation est dans l'ordre intellectuel ce que le désir est dans l'ordre affectif. Dans l'ordre affectif, qu'est-ce qui est le sommet de la vie? C'est le désir. Dans l'ordre de la sainteté, qu'est-ce qui est le sommet ici-bas? C'est le désir. C'est pas ce que vous avez fait. Non. Ce que vous avez fait, vous le laisserez sur la terre en mourant. Hein. La seule chose que vous emportez, c'est les désirs. Alors ça, vous les emportez. Vous verrez, c'est la seule chose qui restera. Tout ce que vous avez fait, très bien, vous le léguez en héritage. C'est ça. L'héritage, c'est de recevoir les conclusions. C'est de recevoir ce qu'on a fait. Mais vous ne léguez jamais vos interrogations. Sauf si vous avez des disciples, des amis. C'est la grandeur de l'amitié. C'est qu'à un ami, je peux tout dire. Je peux dire toutes mes interrogations. Bête, quelquefois, complètement idiote. Je l'ai dit qu'à un ami. Parce que je n'ai pas l'air d'un imbécile. Tandis que pour les autres, j'aurais l'air d'un imbécile. Ah, tu t'interroges encore là-dessus? Où est-ce que tu en es? C'est très très curieux l'interrogation. Alors c'est, vous voyez, je crois que ça doit être pour nous un chantier de recherche. En réfléchissant sur vos propres interrogations. Quand avez-vous interrogé? Pourquoi avez-vous interrogé? Sur quoi vous interrogez? En vue de quoi vous interrogez? Tout y passe. Alors qu'est-ce que c'est l'interrogation? Le désir de l'intelligence qui recherche la vérité. La recherche de la vérité est source d'interrogation. Et si vous ne recherchez plus la vérité, vous n'interrogez plus. C'est bien simple. Vous êtes passif, vous recevez tout. On a dit ça, très bien. On l'a dit, je ne comprends rien, ça ne fait rien. Tandis qu'au contraire, si vous interrogez, vous dites pourquoi je ne comprends pas? Qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je suis en présence de ces deux affirmations, substance première, substance seconde. Le primat de l'existence, qui est toujours le singulier, n'existe que le singulier. Le primat de l'universel, l'intelligibilité. C'est curieux. Et c'est intéressant de creuser ça. C'est les deux primats. Mais ce n'est pas encore la découverte de ce qui est premier. Qu'est-ce qui est premier de ces deux? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est homme? Qu'est-ce que vous répondrez tout de suite? Ah, ça dépend sur quel point de vue. C'est vrai. Sous un point de vue, Pierre est premier. Sous un autre point de vue, homme est premier. Ce point de vue de l'existence, Pierre est premier. Ce point de vue de l'intelligibilité, homme est premier. Est-ce qu'il vaut mieux être intelligent ou exister? Cogito ergo sum. Hein. C'est curieux. Cogito ergo sum. Donc, l'intelligence est avant d'exister. Pour Descartes, il a tellement peur de perdre son intelligence. Il la met tout de suite. C'est comme le gosse qui a retenu une leçon. Et tout de suite, elle le dit. Je sais telle fable de La Fontaine par cœur. Oh, comme il est intelligent, ce petit. Il sait par cœur une fable de La Fontaine. Et c'est vrai. Je me souviens de ce gosse de 4 ans qui récitait par cœur une fable de La Fontaine de son père. Il ne comprenait rien. Il récitait par cœur. Et alors, il faisait venir. Alors, récite un peu ta fable. Il récitait sa fable. Puis tout d'un coup, il y avait un accro. Il oubliait. Cogito ergo sum. Ça te me dit, ceci est avant. Et ceci est capable de penser. Ah, tiens, l'être est avant l'acteur. Alors, est-ce qu'il faut être Descartes? Est-ce qu'il faut être Thomas d'Aquin? Voyez, on touche là quelque chose d'absolument fondamental. Et vous pouvez faire l'histoire de la pensée européenne avec ces deux primats. Mais d'un côté, les philosophes qui mettent la pensée avant, le cogito avant, et les autres, l'existence avant. Et c'est une distinction fondamentale. C'est très bien, c'est deux. Mais alors, il n'y a pas de premier dans l'être. Donc, il n'y a pas de métaphysique. Vous voyez la porte de la métaphysique. Si vous restez substance première, substance seconde, vous n'entrez pas dedans. Et vous êtes obligé de dire, je suis un imbécile, je ne peux pas connaître l'être. Non, ceci est, c'est un mur. Et pour beaucoup, c'est un mur. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce jugement d'existence? Je ne comprends rien du tout. Pas du tout intelligible, ce jugement d'existence. C'est l'exister, mais l'exister, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est l'être, je n'arrive pas à comprendre. Je comprends très bien la forme, je comprends très bien homme, oui, ça va. Animal, ça va. Rationnel, ça va. Capable de rire, ça va. La quantité, oh, ça va, tout ça. Mais c'est dire ce que c'est que l'être, ça échappe tout le temps. Parce que Pierre, c'est, il existe, homme, il est intelligible, donc il est. Et il est autrement encore. Alors, je me pose la question, c'est deux. Quel est le premier dans l'ordre de l'être? Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être? Tant que je n'ai pas saisi ce qui est premier dans l'ordre de l'être, je n'ai pas saisi le principe de ce qui est en tant qu'il est. Le principe, c'est ce qui est premier. Tout simplement, c'est ça le principe. Le principe, c'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est ça la source. Quand vous avez cherché la source d'un petit ruisseau, vous êtes abouti à un moment. Ah, c'est peut-être ça la source. Pour être sûr que c'est la source, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez avant, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Ah, donc c'est bien ça la source. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Vous voyez, c'est négatif. Vous ne définissez pas un principe. Et vous dites ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Or, puis-je aller au-delà de Pierre? Oui. Je dis homme. Puis-je aller au-delà de homme? Oui, je dis Pierre. Oh. D'un côté, je vais au-delà de l'homme par l'exister. Et l'exister, c'est l'être. Hein. C'est l'être en acte, l'exister. Je peux aller au-delà de Pierre en pensant à homme. Au point de vue de l'intelligibilité. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Je me pose la question. Je pose la question, et ça, c'est capital. Quel est ce qui est premier dans ce qui est en tant qu'il est, du point de vue de la détermination? Qu'est-ce qui est premier? Il faut bien qu'il y ait un premier. Je peux très bien ne pas le saisir. Alors c'est beau de s'arrêter à cette interrogation. Oui. L'interrogation, c'est l'intelligence, elle devance la réponse. Elle n'en est pas sûre. J'allais presque dire que toute interrogation présuppose une intuition. Je crois, c'est là l'intuition joue. Ça présuppose ça. Et un gosse, c'est très intéressant de voir ça, la manière dont un gosse pose des interrogations. À 4 ans, ordinairement ça pousse à ce moment-là. Et quelquefois il vous assomme d'interrogations. Il vous poursuit d'interrogations. Et c'est par là qu'on les éduque. Une pédagogie qui n'implique pas l'interrogation, c'est une pédagogie éteignoire. Une pédagogie doit éveiller l'intelligence, avant tout. En éveillant l'intelligence, elle pourra corriger l'affectivité. Mais elle ne peut pas corriger l'affectivité par elle-même. L'amour ne se corrige pas par l'amour. L'amour se corrige par l'intelligence dans l'amour. Quand je comprends que je ne peux aimer que ce que je connais. Et dans la mesure où je le connais, je peux l'aimer. À un moment donné, ça s'arrête. Parce que la passion aime sans connaître. J'aime instinctivement. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'aime. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime. Ben, je ne peux pas faire autrement, j'aime. C'est-à-dire, mais espèce, attention, attention. Soyez quand même intelligent et aimez ce qui vaut la peine d'être aimé. Pas la peine de perdre votre temps. D'aimer quelque chose qui vous échappe complètement. C'est pas humain. Ce n'est pas quelque chose qui est vrai. C'est passionnel. Voyez l'interrogation là. Elle creuse. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être? Ce qui est premier dans l'ordre de l'être, c'est justement ce qui est commun à Pierre et à homme. Il y a quelque chose de commun. C'est évident quelque chose de commun. Ils sont premiers dans un ordre donné. Et cet ordre donné, c'est dans l'ordre de l'être. Premier dans l'ordre de l'exister, premier dans l'ordre de l'intelligibilité. L'intelligibilité se ramène à l'être. L'être est intelligible. Tout ce qui existe est intelligible. Et tout ce qui existe, existe en lui-même, distinct des autres. C'est pour ça que l'autre, c'est l'enfer. Parce qu'il n'existe que moi. On reviendra là-dessus tout à l'heure. L'autre manière d'aboutir. Donc il y a quelque chose de commun en deux. Vous voyez, l'interrogation cherche ce qu'il y a de commun dans deux choses diverses. Et ce qui est commun est avant la diversité, toujours. Pourquoi ce qui est commun est avant la diversité? Parce que c'est ça l'interrogation. C'est chercher ce qui est commun entre les deux. Et ce qui est commun entre les deux est antérieur à la diversité. Donc il est bien premier. Et c'est ce qui est commun, le tikoinon. Ça vaut mieux de le dire en grec. Hein. Le tikoinon. Aristote cherche le tikoinon. Ce qui est commun. Ce qui est commun entre les deux. L'œcuménisme. Entre Pierre et homme. C'est l'être. Deux modalités de l'être. C'est curieux. Voyez que la parole, là, va m'aider. Je dis substance première, substance seconde. Ah ! Donc, ce qui est commun, c'est substance. Vous dites substance. Pierre, substance première. Substance seconde, homme, c'est substance. Il y a quelque chose de commun. Et dans la parole même, dans le langage même, et très souvent, le langage aide. On ne s'y arrête pas. Vous voyez, c'est un intermédiaire. Le langage est relatif à l'intelligence. Toujours. Mon langage indique quelque chose qui est connu avant. Avant de connaître Pierre, je connais substance. Avant de connaître homme, je connais substance. Tiens, mais de façon vague. Mais je le connais, puisque j'ai dit substance première, substance seconde. Donc, ce qui est commun aux deux, c'est la substance. Qu'est-ce que c'est que la substance? Eh oui, c'est ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Tout simplement. Et ce qui est premier dans l'ordre de l'être, selon deux modalités différentes, l'exister, l'acte d'être, et l'intelligibilité homme. J'ai donc interrogé qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Tant du côté de Pierre, tant du côté de homme, c'est la substance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qui est commun? C'est l'intelligence qui saisit ça. Parce que l'intelligence saisit l'être. Au-delà de l'exister, l'intelligence saisit l'être. Au-delà de l'intelligibilité, l'intelligence saisit l'être. Ah donc, ce qui est commun, ce qui est source de l'un et de l'autre, parce que c'est premier et source, source de l'exister, source de l'intelligibilité, c'est l'être substantiel. C'est ce principe premier. Ce principe premier, c'est l'intelligence qu'il saisit. Je n'ai jamais touché la substance, tandis que j'ai touché Pierre. Je n'ai jamais touché homme, tandis que mon intelligence a l'expérience de homme. Ah, deux expériences. L'expérience externe, j'ai touché Pierre. Pierre, je le sais bien. Je le caresse. Je lui tape sur la tête. Mon vieux Pierre. Je tape sur la tête. Et mon intelligence saisit homme. Donc il y a deux expériences. L'expérience externe par la main. Tant que je n'ai pas tapé sur la tête de Pierre, je ne connais pas bien Pierre. Et tant que je n'ai pas réfléchi sur homme, je n'ai pas saisi l'intelligibilité profonde de Pierre. Deux expériences internes. Et l'expérience interne première, c'est de saisir la quiddité de la réalité. Aristote a inventé ce mot quiddité pour que justement je comprenne qu'il y a une expérience de l'intelligibilité de Pierre. Tout à fait première, c'est son essence, sa quiddité, ce qui est essentiel en lui. Et puis, par le toucher, je touche son exister, ce fait qu'il est, et qu'il existe indépendamment des deux autres, qu'il a son autonomie propre. Et tous les deux se ramènent à l'être dans ce qu'il a de tout à fait premier, sa substance. Là, vous allez me dire, aucun intérêt, ça. Mais oui, c'est très intéressant, puisque vous dépassez l'expérience la plus simple. Vous touchez Pierre. L'expérience interne la plus profonde, quiddité, homme. Et vous voyez que l'être, c'est l'intelligence qui, au-delà d'expérience, saisit le principe. Voilà ce que c'est que l'induction. Et vous avez là l'induction à l'égard de l'être première. Elle est très simple, hein. Tout le monde peut comprendre ça. Et je vois que je ne peux pas m'arrêter à la substance première, je ne peux pas m'arrêter à la substance seconde. Impossible. Si je cherche l'être, je dois aller au-delà. Et d'autre part, je vois que d'un côté comme de l'autre, je saisis quelque chose que mon expérience peut affirmer, Pierre, être. affirme que Pierre existe. J'affirme que Pierre a cette intelligibilité particulière, l'homme. Et tous les deux, c'est bien quelque chose de l'être. Mais l'être n'est ni l'existé singulier. L'être n'est ni l'intelligibilité que je saisis dans Pierre. L'être est au-delà. Et cet au-delà de l'être, je le saisis dans la substance principe. Principe de ce qui est. Principe de l'intelligibilité. Principe de l'exister. Voyez, l'induction est donc la vie de l'intelligence qui saisit ce que elle seule peut saisir, le dépassement de l'expérience grâce à l'interrogation. Si je n'interroge pas qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être, je resterai d'une façon paresseuse. On est toujours fondamentalement paresseux. Alors je resterai à l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est Pierre quand même. C'est pas la substance c'est très bien, mais c'est un principe. Ah oui, un principe, c'est quand même beaucoup. Pour la vie de l'intelligence, l'intelligence se nourrit des principes. Elle ne se nourrit pas de l'expérience. Elle ne se nourrit pas de l'expérience. L'expérience est faite pour le dépasser l'expérience, au point de vue de l'intelligence. Autrement, je resterai devant des faits, l'événement. Je ne verrai plus que ça. Et je n'arriverai pas à comprendre la réalité. La vie de l'intelligence se manifeste à travers l'interrogation qui lui permet de dépasser l'expérience. Et si je supprime l'induction, si je supprime l'interrogation, je resterai uniquement quelqu'un qui reste au niveau de l'expérience, interne et externe. Et je décrirai ce qu'est Pierre, je décrirai ce qu'est homme. Il y aura la description. Et je resterai selon ces deux modalités de l'être, l'exister et l'intelligibilité. Rien de plus. Tandis que si je saisis le principe, ah, alors à ce moment-là, mon intelligence saisit quelque chose de radical. Au-delà de l'exister, au-delà de l'intelligibilité. Quelque chose qui me permettra de comprendre ce qu'est la cause propre de ce qui est, en tant qu'il est. Dans tout être qui est parfait, je découvrirai sa substance. Qui me permet de découvrir vraiment la racine profonde de tout ce que l'expérience me donne, expérience externe, expérience interne. Et je commence à comprendre qu'il peut y avoir une philosophie de ce qui est, c'est-à-dire une métaphysique. Tant que je n'ai pas saisi la substance, je décris. Et je ne saisis pas vraiment l'être en tant qu'être. Je saisis des modalités de l'être. C'est très bien, c'est très intéressant. Ah, ce que je viens de dire là. C'est peut-être exactement ce que fait la phénoménologie. Nous avions vu précédemment, il y avait deux manières d'aboutir à la découverte de la substance. Par les catégories, substance première, substance seconde. Et puis l'autre manière, c'était la réflexion sur ma connaissance. Et j'avais vu la réflexion sur ma connaissance en mettant entre parenthèses l'être. Méthode de Husserl. Je mets entre parenthèses l'être. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Pierre. J'ai l'intelligibilité homme. C'est vrai, j'ai les deux. J'ai moi, mon moi profond. Mon moi profond, c'est quoi? C'est ce auquel j'attribue tout ce qui m'intéresse, tout ce que je suis capable de faire, tout ce que je suis capable d'aimer, tout ce que je suis capable de comprendre. Mon moi. Qui est ma personne? Qui est ma substance, mon moi? Et puis, je saisis les diverses modalités. Mon moi pense, cogito. Mon moi aime. Mon moi travaille. Et ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez voir autour de votre moi. Alors, vous avez ces deux aspects ultimes dans la perspective de la phénoménologie. Votre moi pensant. Votre moi aimant, votre moi travaillant, votre moi lié au corps, votre moi quantitatif, irréductible à votre moi pensant, votre moi singulier. Je suis un être singulier. Personne ne peut me remplacer. C'est bien évident pour chacun d'entre nous, c'est comme ça. Personne ne peut nous remplacer. Nous avons une singularité telle dans notre pensée, dans notre amour, dans notre vie, qui fait qu'on ne peut pas être remplacé. Vous avez un moi pensant, ah celui-là, oui, il est universel. Je peux communiquer à tous les êtres pensants, si je pense bien. C'est communicable. De l'autre, c'est incommunicable. Chose individuelle en moi, dans mon moi. Alors, est-ce que, si je décris ça, est-ce que je peux aller plus loin? Voilà la grande question. J'ai vu que j'aboutis aussi à la dualité. Je ne dis pas substance première, substance seconde. Je dis moi, qui est ma personne, qui apparaît en ayant une dualité. Mon moi qui pense, universel. Mon moi qui aime spirituellement. Et puis mon moi passionné, bien plus intéressant. Mon moi passionné, parce qu'il est unique celui-là. Personne ne le remplace. Est tout à fait individuel. J'ai les deux. Peut-on aller plus loin? C'est ça qui est intéressant. Peut-on aller plus loin? Donc, c'est le moi. C'est pas la substance. C'est mon moi. Alors, qu'est-ce que c'est que mon moi? Est-ce que mon moi, c'est ce dont j'ai conscience dans le vécu de mon intelligence qui réfléchit sur elle-même, dans le vécu de mon amour. Mon moi, c'est le vécu. Le vécu dans mon corps, ma quantité. Je suis un être qui prend de la place. Très ennuyeux, je prends de la place. J'aimerais tellement disparaître, hein, dans l'humilité. Et non, je ne peux pas disparaître dans l'humilité. Je pèse très lourd. Je suis très grand. Donc toujours on me voit. Vous avez besoin de moi, alors? Est-ce que vous avez besoin d'interroger? Est-ce qu'il y a un premier dans le moi? Ah, je peux dire oui, je peux dire que mon moi pensant est beaucoup plus important que mon moi quantitatifs, mais ils sont irréductibles. C'est pas mon moi pensant qui va changer ma quantité. Essayez. C'est pas en pensant beaucoup à votre moi qui pense C'est en faisant beaucoup de métaphysique que vous allez maigrir. Allez, cours de métaphysique, cours d'amaigrissement. Votre moi pensant devient très important. Il reste. Oui, il faut bien qu'il mange, mais c'est vraiment pas intéressant du tout. Alors, ils sont un peu irréductibles et en lutte perpétuelle, en lutte dialectique. Vous n'avez pas possibilité d'induire. Est-ce que l'induction existe ? En fait, imaginons, c'est la description. Et vous décrivez, et vous avez l'opposition. Les deux s'opposent, et vous restez dans cette opposition. Et vous n'allez pas plus loin, vous ne pouvez pas aller plus loin. Parce que au-delà du connu, au-delà de ce qui est aimé, il n'y a rien. C'est la conscience qui est le terme. Et ce terme, il est ou pensant ou quantitatif. Il y avait les deux. L'un est corporel, singulier, l'autre est spirituel. Pas d'induction en phénoménologie. Impossible. Pas d'induction. Donc en phénoménologie, je décris. C'est ce que Merleau-Ponty a très bien compris. Et dans la préface du livre de Merleau-Ponty sur la phénoménologie de la perception, il y a une très bonne préface sur la méthode phénoménologique. Intelligente. Une méthode qui décrit. Pas dans la... ce qu'on décrit est l'absolu. Il n'y a pas d'interrogation qui naît à partir de là. Vous décrivez, c'est tout. Et si on vous dit, je vous décris, c'est ça qui est intéressant, c'est d'écrire ma vie intellectuelle, c'est d'écrire ma vie affective, c'est d'écrire les drames. Et quand je suis en face d'un drame, l'affectivité est très éveillée. C'est vrai, quel est l'acte de l'affectivité ? Où l'affectivité est-elle le plus en vigueur ? C'est dans le drame. Et il y a certaines personnes, il suffit qu'elles soient là pour qu'il y ait un drame. C'est très curieux. Quand elles ne sont pas là, il n'y a plus de drame. Il y a des personnes dramatiques. Dramatiques en elles-mêmes. Le drame suscite l'intérêt. Et comme je veux être l'intérêt, puisque on peut me décrire, et la description fait que je veux être au cœur, pour être au cœur du drame. Pas d'induction, pas de dépassement. Je ne peux pas dépasser la description. La description est intérieure. C'est très quantitatif. C'est très intéressant, mais au fond, c'est l'art. C'est plus la philosophie. La philosophie cherche ce qui est premier. La description ne cherche jamais ce qui est premier. Elle aime, au contraire, de voir une dualité la plus forte qui soit. Et cette dualité la plus forte qui soit, c'est le drame. C'est la dialectique. Vous êtes deux. Quand on est seul, il n'y a plus de drame. Ou bien on porte tellement de drame qu'on trouve le drame en soi. On se divise en deux. On peut se diviser en deux. Il y a mon moi pensant et mon moi quand c'est Descartes, ça. Et on voit très bien que Descartes fait ça, parce que Descartes aime d'être seul. Au moins, quand il est seul, il est premier. Mais il n'est jamais premier, puisqu'il est pensant et il est quantitatif. Donc il reste dans la dualité. Oui, c'est extrêmement important de comprendre ça. Que la phénoménologie ne saisit jamais la source, ce qui est premier. Elle ne peut que décrire. C'est pour ça que la phénoménologie ne peut pas atteindre Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la dualité. Dieu est dans le principe. Si vous lisez un principe, vous pouvez, vous avez la piste pour saisir ce qui est premier. Mais vous ne pouvez pas saisir ce premier, il n'y a pas d'induction. L'induction est faite pour saisir ce qui est premier. Pour saisir ce qui est premier et saisir par le fait même la cause. Toute cause est première. Mais tout principe n'est pas cause. Ah. Alors là, il y a quelque chose de très important. Donc, j'ai éliminé la phénoménologie incapable de saisir ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Elle demeure dans la dualité. La phénoménologie demeure dans la dualité. Elle demeure dans le combat, elle demeure dans le tragique. Et donc, où la phénoménologie sera le plus parfait, c'est dans une description artistique, en montrant les deux contraires, les plus opposés qui soient, le moi pensant, le moi quantitatif. Mais je ne peux pas saisir ce qui est premier. Pourquoi? Parce que la phénoménologie implique la conscience. Et la conscience n'est jamais première. C'est ça qui est important de saisir. Si je suis dans le vécu n'est jamais premier. Le vécu est toujours deux. Toujours. Pourquoi? Parce que dans le vécu, si je l'analyse, je ne suis plus dans la description. Si je l'analyse, je mets, il y a le vivant et l'autre. Il y a ce que j'ai saisi, ce que j'ai assimilé, ce que je n'ai pas assimilé. C'est la grande distinction. Ce que, qui est inassimilable et ce qui est assimilable. C'est la grande distinction du vécu. Et cette distinction du vécu n'implique pas de premier. Parce que ce qui n'est pas assimilable, je ne le connais pas. C'est l'X. Ce qui m'échappe. Et ce qui est assimilable, c'est ce qui est un avec moi. Et donc, je reste toujours dans la dualité. Ce qui est identique à moi-même et ce qui est autre que moi. Vous voyez que la découverte de la substance me montre que seule une philosophie réaliste et non pas une philosophie de ce, du vécu me permet ce dépassement. Et donc une philosophie du vécu ne peut pas aller au-delà de la description. Elle ne saisit jamais de principe. Et par le fait même, elle ne saisit jamais de cause. Nous reviendrons là-dessus, parce que ça, c'est capital.